Marathon de 35 heures du 24 octobre 12h au 25 octobre 23h.
Oh, très dur.
C'est l'actualité.
Très dur. Pourquoi ?
Avec le CRISP et Radio Panique.
Voilà, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. C'est parti pour ce 35 heures de programmation radio en direct. Alors, l'actualité en 3D, comme on vous l'a dit il y a quelques instants, on a, c'est plus qu'un symbole, c'est un véritable honneur. On a le plaisir de recevoir Philippe Caufrier. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, en effet, on dirait presque l'expression homme de radio a été forgée pour vous. Vous êtes, si vous êtes sociologue ou journaliste de formation, vous avez fait une longue carrière à la RTBF. Vous y avez notamment dirigé Musique 3. Et puis, tout au long de votre parcours et de votre vie, vous vous êtes intéressé à l'histoire de la radio. C'est d'ailleurs un cours que vous enseignez à l'IAD. Vous avez contribué à la création de la Sonuma, donc les archives audiovisuelles de Belgique francophone. Et si on vous reçoit, c'est que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, de plusieurs publications sur la radio en Belgique en particulier, et notamment pour le compte du CRISP. On peut citer un courrier hebdomadaire intitulé 30 ans de radio en communauté française 1978-2008 en collaboration avec Evelyne Letzen, et puis une formidable histoire de la radio francophone en Belgique parue en 2015 et qui a été également publié sous une forme richement documentée à la Renaissance du Livre, 100 ans de radio en Belgique en 2013. Alors vous êtes un collectionneur et un archiviste extraordinaire de tout ce qui touche à la radio, et de votre collection aujourd'hui vous êtes venu avec ceci. Voilà, ça commence bien.
Un, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7, 8, 9, 10. Allô, allô, ici Poste radio-télégraphique et radio-téléphonique de Laeken, près de Bruxelles. Allô, allô, ici Poste radio-télégraphique et radio-téléphonique de Laeken, près de Bruxelles. Messieurs les amateurs de télégraphie sans fil, nous allons vous faire entendre un concert dédié à Sa Majesté la Reine Elisabeth. Messieurs les amateurs de télégraphie sans fil, nous allons vous faire entendre un concert dédié à Sa Majesté la Reine Elisabeth. Nous commençons par l'air de la Tosca.
Alors Philippe Caufrier, c'est quoi ce son ?
Alors ce qu'on est en train d'entendre, c'est un extrait de l'émission qui a débuté la radio en Belgique. C'est donc la première émission diffusée en Belgique. C'est aussi une première européenne. C'était diffusé le 28 mars 1914, ce qui est très tôt dans l'histoire de la radio, puisque essentiellement la radio, elle commence dans les années 20. Et donc là, on est en 1914. Et pourquoi est-ce que ça se passe à ce moment-là ? Eh bien, parce que en fait, la Belgique a une colonie. Elle a hérité du Congo en 1908. Jusque-là, le Congo, sous le nom État indépendant du Congo, était la propriété personnelle du roi Léopold II. Et Albert Ier va être confronté au même problème que Léopold II, à savoir comment organiser la communication avec ce pays de manière rapide et à l'intérieur aussi de ce pays. Alors il va demander à Robert Goschmidt, qui était un professeur de physique à l'ULB, d'installer des stations de télégraphie sans fil au Congo. Comme ça, ça évite évidemment de mettre des câbles sur des milliers de kilomètres. Et il va aussi demander qu'on installe une liaison directe entre Bruxelles, en l'occurrence Laeken, parce que c'est le roi qui finance tout ça. Donc depuis le parc royal de Laeken, il y aura une communication directe à partir de 1113 jusqu'au Congo. Et c'est à partir de toute cette installation-là que Goldschmidt, qui a un côté professeur tournesol très inventif, il a fait des tas de choses, il a fait circuler le premier dirigeable à Bruxelles. Enfin, c'est un professeur tournesol sans le physique, hein, je tiens quand même à dire. Il a un physique légèrement différent. Mais donc c'est quelqu'un très inventif qui cherche tout le temps à lancer de nouvelles initiatives. Et il voit que la reine Elisabeth adore la musique et est passionnée par cette télégraphie sans fil qui l'intrigue beaucoup. Et il se dit, tiens, si je mets un micro dans micro inventé à l'occasion du téléphone, si je mets un micro dans le circuit de diffusion, je vais pouvoir faire ce qu'on va en fait appeler la téléphonie sans fil, c'est-à-dire c'est le premier nom de la radio. Et donc c'est comme ça, de manière un peu indirecte, un peu exceptionnelle, parce que c'est un peu une expérience sans lendemain, enfin ça a quand même duré quelques semaines, mais toutes les installations vont être sabotées lorsque les Allemands vont arriver en 1914, parce que comme c'est une antenne très puissante qui était à l'intérieur même du Parc Royal, on pouvait évidemment envoyer des messages de télégraphie sans fil à l'autre bout de l'Europe et donc même en Afrique. Et donc, c'était quand même un outil de communication très important. Donc, tout a été saboté. Et donc, il faudra attendre, en tout cas en Belgique, fin 1923, début 1924, pour avoir une première station de radio, je dirais, digne de ce nom.
Alors, on imagine qu'en 1914, il y a finalement assez peu de monde qui a eu l'occasion d'entendre en direct cette émission. Quand la radio va devenir véritablement un média de masse?
Alors je pense qu'on peut dire que c'est à la fin des années 30, parce que les années 20, c'est vraiment la période d'installation des stations. Il y en a déjà 600 aux États-Unis en 1926, il y en a près de 200 en Europe, voilà. Mais il faut dire aussi que dans les années 20, les postes de radio sont encore très compliqués. Les auditeurs doivent être de sérieux bricoleurs. Tout ce qui constitue un poste de radio, le haut-parleur, les moyens électriques qui interviennent dans un poste de radio, tout ça est séparé. Et donc ce n'est qu'à la fin des années 20 qu'on va avoir des postes compacts qui sont d'une utilisation simplifiée, c'est-à-dire qu'ils ont deux boutons, un bouton pour trouver les stations et un bouton pour amplifier ou diminuer le son. Et en plus, ce sont des postes qui fonctionnent avec des lampes, parce que les tout premiers postes de radio, c'était des postes à galène. On ne va pas entrer dans tous les détails techniques, mais ça ne permettait que de capter essentiellement des stations locales. Les postes à lampes, ça permet de capter Rome, l'Angleterre, la Suisse, la France. Et ça va bien sûr beaucoup aider au développement de la radio. Et c'est surtout dans les années 30 alors que la radio va se professionnaliser. En Belgique, on installe l'INR, donc l'Institut National de Radiodiffusion. Et à la fin de la décennie, on peut dire que la radio s'est imposée. En tout cas, il est devenu habituel que les hommes politiques utilisent la radio, ce qui est toujours un signe. Et bien entendu, on se souviendra que Hitler a fait de la radio un outil privilégié de propagande. Et donc, la radio va avoir une telle importance finalement, parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, pendant la guerre, les journaux seront interdits, ou alors à la solde de l'occupant. Et donc, en 1945, on va décider que les radios privées qui existaient encore avant 1940 ne peuvent plus émettre. La radio, c'est quand même un outil dangereux, enfin qui peut être dangereux, qu'il faut manipuler avec soin. Donc un petit contrôle de l'État ne serait pas si mal. Et donc on instaure le monopole du service public donc en 1945.
Monopole qui va faire l'objet de vives contestations dès les années 60 et qui va se prolonger dans les années 70, avec tout le mouvement des radios libres, dont Radio Panique est toujours l'héritière. Et on va écouter un petit son aussi que vous nous avez proposé. On le débriefe juste après.
Les Couvinois parlent aux Couvinois.
Les trois vallées que vous aimez, elles vont disparaître à jamais. Nous sommes en colère. Couvin ne sera pas détruit, Couvin ne sera pas trahi. L'eau noire restera dans son lit. Pour tout le monde, c'est l'heure du courage.
Ici Radio Couvin sur 102 MHz. La radio pirate des irréductibles couvinois.
Ça pète encore plus souvent que ça ne rate.
Mais on a bougé parce qu'on voulait sauver nos vallées.
Je pense que si les forces de l'ordre avaient bougé, c'était une émeute.
Il n'y a personne qui aurait su nous arrêter, je crois.
On était prêts à en découvrir.
Ça, on leur a toujours fait comprendre qu'on ne lâcherait jamais. Et on a été jusqu'au bout.
Mais surtout une conviction que nous avions raison.
On va gagner.
Ben oui, parce qu'on croyait, on savait bien qu'on allait gagner.
Nous sommes libres, on va changer.
nous a dit la BSR, c'est comme les crottes, ça colle.
Philippe Coffrier, la radio dans ces années-là, c'est un sport de combat ?
Alors, en tout cas, c'est un acte de résistance. Et c'est comme ça que les fondateurs de Radio Couvain l'ont compris. En fait, ils ont été chercher un émetteur en Italie. Pourquoi en Italie ? Parce que depuis 1976, la Cour constitutionnelle italienne avait supprimé le monopole de la RAI au niveau local. Et donc, on pouvait acheter très facilement un poste de radio. Et donc, un des responsables de ce comité d'habitants va aller près de Turin, acheter un poste de radio. Je l'ai rencontré et il m'a dit qu'il avait payé à l'époque 20 000 francs belges. Donc c'était quand même une certaine démocratisation des moyens d'antenne. Évidemment, c'était un émetteur de portée limitée, hein, il faut quand même le préciser. Et donc, ils vont considérer effectivement qu'ils sont un peu... Ils vont tous prendre des noms en X parce que c'est la grande période d'Astérix du succès de ces albums. Et donc, ils vont tous s'appeler à leur Wall Graphics et ainsi de suite. Hein. Et donc... tout ça parce qu'ils estiment qu'ils sont en résistance par rapport à un pouvoir fort, un pouvoir centralisateur fort qui veut leur imposer... Un barrage sur la petite rivière qui traverse Couvain, qui s'appelle l'eau noire. C'est pour ça qu'on parle de radio eau noire, mais en fait, bon, c'était Radio Couvain. Et ce projet de barrage n'apportait strictement rien aux gens du coin. C'était un projet de barrage pour renforcer le débit de la Meuse. Et ça risquait vraiment de totalement inonder une partie de la vallée. Et donc... ils ont mis en place un système d'une très grande complexité qui fait penser effectivement à la résistance, avec des rôles qui étaient cloisonnés. On enregistrait, chacun venait avec un texte ce qu'il avait envie de dire à l'antenne, et ça se passait dans le salon d'un des membres de ce comité d'habitants. Et alors chacun venait donc enregistrer une partie de la cassette qui allait être l'émission hebdomadaire, puisque c'était une émission de 10 minutes tous les vendredis à 22h. Et alors évidemment, c'était bien qu'il y ait un petit peu de musique en fond, mais ça se basait évidemment sur la discothèque du gars chez qui on enregistrait. Donc il y a des extraits de Radio Couvain où on entend que c'est de la musique classique, ça fait assez comique sur un texte qui est véritablement militant, hein. Et donc là-dessus on emportait l'enregistreur à cassette. Et on allait sur les hauteurs, donc un autre groupe, un autre duo que ceux qui avaient enregistré l'émission. Donc je vous l'ai, le cloisonnement des fonctions.
Exactement comme la résistance. Oui.
Voilà, donc partait alors sur les hauteurs de Couvain. Il faut savoir que Couvain, c'est dans une cuvette, donc il y a de très nombreux arbres et forêts aux alentours. Et alors on allait déposer là le lecteur à cassette au pied d'un arbre qui... m'a-t-on dit, changer chaque semaine, et quelqu'un montait en haut pour installer une antenne. Et puis, donc, il y en avait un qui surveillait la diffusion de la cassette et l'autre qui faisait le guet. Enfin, je vous dis, franchement, effectivement, un acte de résistance. Et alors, ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que, en fait, bon, il fallait quand même que les habitants écoutent cette émission. Donc, il faisait paraître dans le tout de boîte local, le fait que, voilà, vendredi prochain, ne manquez pas d'écouter Radio Couvain à 22h. Et donc, chaque vendredi, la BSR, puisque tout ça était évidemment illégal, la BSR se demandait, donc c'est la BSR, c'est la gendarmerie de l'époque, se demandait, mais où est cette émission ? Où est le studio ? Comment est-ce que ça se fait qu'on entend cette émission ? Et l'effet indirect de cela, c'est que comme les voitures de la BSR se promenaient dans Louvain, ben, les habitants étaient informés par conséquent, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il y avait donc bien une émission qu'il fallait écouter.
Et alors, finalement, Radio Couvain ou Radio Au Noir, c'est un peu l'illustration que toutes ces radios libres sont emblématiques des grands combats de l'époque, le combat environnemental, le combat antiraciste, par exemple, dans le cadre Radio Panique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette association de la résistance politique et de la radio est toujours d'actualité ?
Alors, je pense que d'abord, les questions environnementales sont toujours bien présentes. Le combat anti-nucléaire, peut-être un peu moins, encore que, on sait très bien qu'il y a tout un mouvement pour arrêter les centrales et trouver d'autres moyens énergétiques. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, la radio, à l'époque, en tout cas, ce type plat de radio est tout à fait à l'image de ce qui se passait, puisque, par exemple, si on prend... L'ARO, qui est donc le comité, l'association de défense des comités de quartier contre les projets de rénovation urbaine un peu dingue qu'on a connu à l'époque, eh bien, l'ARO a été créé en 1969 et la coordination antinucléaire, c'est en 75. Donc, on est vraiment dans cette période-là. Et il faudra attendre 80, d'ailleurs, pour voir arriver la création du pas encore le parti, mais le mouvement écolo. Et c'est un phénomène qui se passe aussi ailleurs. Il y a la célèbre lutte pour le Larzac. C'est ce plateau dans le sud de la France où l'armée voulait étendre une base militaire et qui a fait l'objet d'un véritable enjeu écologique, donc de défense de l'environnement au profit des paysans qui étaient là. Et on pourrait aussi citer en France Radio Fessenheim, qui est une radio qui a été donc créée au moment où on a installé la centrale nucléaire en Alsace, centrale qui existe toujours.
Le développement de la radio, vous l'avez expliqué, il est indissociable des progrès techniques, la TSF, l'apparition de la FM, la démocratisation du matériel. Aujourd'hui, les possibilités techniques sont très variées pour la radio. Est-ce que finalement, ce n'est pas ces progrès techniques qui reportent la mort qu'on a parfois un petit peu annoncée de la radio comme un média un peu désuet? Quelle est votre analyse sur ce foisonnement technique contemporain?
Alors, je pense que la radio, quand on voit l'histoire de la radio depuis plus de 100 ans, puisque c'est quand même une vieille dame aujourd'hui, elle est marquée par un renouvellement constant. Moi, je pense que, bon, évidemment, j'aime beaucoup la radio, je suis un homme de radio, je défends la radio. Mais quand on voit l'histoire de la radio, on voit que la radio s'est toujours adaptée à son environnement. Elle a revu complètement ses émissions au moment de l'arrivée de la télévision dans les années 60. Donc la télévision commence en 53 en Belgique, mais c'est surtout à partir des années 60 que ça se développe. Et qu'est-ce qu'on trouve pour relancer la radio? On lance la FM. La FM qui existait techniquement parlant déjà dans les années 50, mais les émissions commencent véritablement et c'est une occasion de renouveler complètement l'offre de programmes dans les années 60 grâce à la FM. Et donc aujourd'hui, en fait, l'histoire de la radio ne se confond plus tout à fait avec l'histoire d'un récepteur, donc d'une petite boîte qui ne permettrait que d'écouter la radio. Puisque on sait qu'il y a environ 12% des gens en Belgique, c'est pas énorme, mais c'est 17% chez les 12-34 ans, 12% qui écoutent la radio en ligne déjà. Donc il y a toute une modification. On peut écouter aujourd'hui la radio en télévision, sur un ordinateur, sur un smartphone, et ce sont des usages qui se développent. Par ailleurs, la radio a un avantage sur d'autres médias, c'est que elle est tout à fait mobile. C'est un outil comme qui reste léger et très mobile. Et donc, par exemple, quand on est en voiture, c'est quand même suivre une émission de télévision en voiture, c'est quand même dangereux, quoi.
Alors, merci beaucoup, Philippe Coffrier. On n'a pas eu le temps d'envisager tous les thèmes qu'on avait évoqués en préparant cette émission. Et donc, si vous êtes d'accord, on se fera un plaisir de vous réinviter, notamment pour parler de l'actualité politique plus immédiate, notamment la question du plan de fréquence organisé à partir de la communauté française. Mais il nous avait vraiment semblé essentiel de vous avoir pour inaugurer cette programmation 35 heures, 35 ans. Donc, merci beaucoup, Philippe Coffrier.
C'était avec plaisir.
Peut-être une toute dernière question. Est-ce que vous écoutez parfois la radio le dimanche midi?
Ça m'arrive, oui.
Eh bien, je ne peux que vous conseiller le dimanche à midi pile de vous brancher sur le 105.4 FM ou, comme vous venez de nous l'expliquer, d'aller sur le site de Radio Panique pour écouter une émission qu'on a un vif plaisir d'accueillir sur nos ondes. C'est une émission qui s'intitule Solénoïde. C'est une émission pour les amateurs et les amatrices de musique imaginogène. Et pour nos 35 ans, eh bien, toute l'équipe de Solénoïde nous a envoyé ceci. Merci beaucoup, Philippe Coffrier. À tout bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.